Nous ne sommes pas ici dans un studio de cinéma, mais bien chez l'un des plus importants photographes parisiens. Car le cinéma et sa technique ont véritablement bouleversé l'art photographique d'aujourd'hui. Jeu d'ombre et de lumière sur le charmant visage d'Yvette Lebon. L'éclairage joue en effet maintenant un rôle primordial. La classique mise au point sur la plaque de verre dépoli.
Le studio Harcourt, tout en clair-obscur. Par Lila Bozès et Nathalie Salle. Premier épisode, naissance d'un style.
L'influence du cinéma ne se fait pas seulement sentir dans le domaine si complexe de l'éclairage, mais aussi dans celui du maquillage, comme le montre ici Corinne Luchère.
Guillaume Évin, est-ce qu'il y a une photo Harcourt qui vous a particulièrement marqué ?
Difficile ça. Non, pas une en particulier, presque toutes en vérité. Parce que le style Harcourt est reconnaissable dans chacune d'elles. Et on retrouve la griffe esthétique Harcourt dans tous les portraits, depuis 1934 à nos jours.
Mais point de maquillage dans la section des studios Harcourt réservée aux enfants. Ici, poudre et fond de teint ne feraient que ternir les fraîches couleurs des tout-petits.
T'aimes pas notre vie ?
Tu l'aimes, toi, notre vie ?
Faut bien, je m'y suis habituée.
Arletty.
J'ai besoin de changer d'atmosphère, et mon atmosphère, c'est quoi ?
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Alors, dans les photos tout à fait exceptionnelles, il y a la photo de Arletty. Pourquoi cette photo me semble-t-elle exceptionnelle ? C'est parce que, à elle seule, elle résume tout l'esprit de Harcourt. C'est une photo où il n'y a absolument aucun décor. Et non seulement pas de décor, mais même pas de vêtements. Ce qui fait que la photo tout de suite se situe hors du temps. On a une pommette lisse, veloutée, un teint exceptionnel, on a des lèvres brillantes. Les seules rides qui sont permises, ce sont des rides d'expression. Tout est fait pour que les marques du temps sur une femme qui n'est quand même pas extrêmement jeune soient gommées. Et en cela, elle résume tout à fait ce que c'est qu'une photographie Harcourt.
Zabou Breitman, est-ce qu'il y a une photo Harcourt que vous aimez tout particulièrement ?
Oui, je pense Gabin. Je me souviens de la photo de Gabin. Très très bien. Pour une raison assez simple, c'est que Gabin évoquait le populaire. On pense à la Bête humaine, on pense... Enfin, il a interprété quand même beaucoup de rôles aussi de gens populaires. Et donc de le voir aussi dans cette forme d'évanescence propre à ce type de photographie était quelque chose d'assez bouleversant, assez touchant, parce qu'il faisait partie du sérail Harcourt d'un coup. C'est-à-dire que son image était quand même celle d'un monsieur de chez Harcourt. C'était pas seulement Gabin.
Super. Bravo. Un tableau.
Cosette Harcourt, la fondatrice du studio dans les années 30, ne s'appelait ni Cosette ni Harcourt. En fait, elle s'appelait Germaine Hirschfeld, c'était une juive allemande, issue d'une famille de petits commerçants qui avaient fui leur pays, qui étaient arrivés en France à la fin du 19e siècle. Et elle a grandi comme ça à Paris, dans le 9e arrondissement. Et puis avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les émigrés allemands ont dû fuir en catastrophe le pays qui les avait accueillis, portant les bras ouverts. Tension nationaliste, on connaît tout ça. Et là, ils émigrent en Angleterre. Là, on perd sa trace. On ne sait pas bien ce qui se passe, en fait, pendant une dizaine d'années. C'est une sorte de trou noir. Et puis elle revient, en fait, à Paris au milieu des années 20. Donc là, elle a un style très college girl et elle s'est affirmée, elle a donc 22, 23 ans. Et là, Cosette Harcourt va découvrir un peu le monde de la nuit, elle est attirée par la photo, elle va être photographe à ses heures perdues. Cosette, elle va être assez mystérieuse et elle va en jouer. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être ce qui a attiré les frères Lacroix et notamment Jacques.
Le studio Harcourt, c'était une sorte d'ovni. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce studio, on ne savait rien sur ce studio. On disait simplement que c'était un studio qui avait été monté probablement par un quincaillier et que Cosette Harcourt, elle venait du cinéma où elle avait été maquilleuse. Voilà tout ce qu'on savait.
Le regard un tout petit peu plus face. Oui, voilà, parfait. Merci Alexandre.
Guillaume Évin, qui étaient les frères Lacroix ?
Ce sont deux jeunes hommes qui étaient appelés à reprendre l'artisanat de leurs parents. En fait, ils étaient fabricants d'accessoires pour modistes. Donc ils avaient un avenir tout tracé. Sauf que ça ne va pas leur convenir et les frères Lacroix vont se lancer dans la publicité. Au départ, c'est leur rêve, c'est de fonder une sorte de nouvelle agence Havas. Bon, ils vont partir en Angleterre faire leur classe.
Jean et Jacques Lacroix se lancent d'abord dans une entreprise de publicité qui échoue et ils vont se rabattre sur la presse. Et Jacques et Jean sont très complémentaires. Deux frères, l'un a les idées, Jacques, et Jean les met en musique. Et à partir de là, ils vont mener une carrière remarquable. Et l'idée de génie qu'ils ont, c'est de ne pas lancer un énième quotidien, mais de se lancer dans la presse spécialisée. Ils promeuvent une publication qui s'appelle la Quincaillerie Nouvelle. Mais l'idée qui vient ensuite, et qui va être le fer de lance, c'est la publication Guérir, qui tout de suite a beaucoup de succès et donc leur donne une assise financière assez intéressante. Et comme les affaires prospèrent, ils ont l'idée de mettre en place un studio de publicité.
Et ils vont créer un studio photo pro-publicité pour alimenter leur gazette. Ils vont s'associer d'ailleurs avec le fils de Nina Ricci.
Tout ça, c'est très bien, mais il s'avère que Jacques a quelqu'un dans sa vie qui est une femme qui se fait appeler Cosette Harcourt. Elle est passée par différents studios, le studio Diaz et puis surtout le studio des frères Manuel, parce qu'elle était elle-même au départ photographe. Et c'est là où elle a appris énormément de choses du point de vue commercial et du point de vue de l'esthétique. Et donc, Jacques se dit que, eh bien, grand prince, comme certains achètent un théâtre à leur actrice préférée, eh bien, lui va acheter un studio à sa photographe préférée.
Ça, c'est très bien. Pivote un peu en sens anti-horaire le fond de gauche, David, s'il te plaît. Tu peux remonter un tout petit peu sur la mèche.
Gauche.
Oui, s'il te plaît. Avec la touche magique d'Alice. Parfait.
Toujours est-il que Cosette va s'emparer de cet outil merveilleux qu'on lui a confié, donc elle va être la patronne des lieux, et c'est elle qui va imprimer son style, sa marque.
Je la compare souvent à Coco Chanel, parce qu'elles ont un peu le même gabarit. Coco était aussi une femme assez menue. Comme Coco, elle fume énormément, elle est habillée de façon très moderne et elle conduit tout de suite, dans les années 30, elle conduit sa voiture. Il faut considérer qu'une femme qui n'était pas mariée avant-guerre, c'était quand même une femme qu'on ne recevait pas. On ne recevait pas chez soi, dans la bonne société, une femme qui n'était pas mariée ou qui n'était pas veuve. Mais Cosette a toujours été une femme excessivement moderne, qui travaillait, qui vivait seule chez elle et menait son monde, dirigeait une entreprise, car véritablement, les frères Lacroix, eux, avaient à l'étage, ils avaient leur bureau, mais ils ne s'occupaient absolument pas du studio.
La photo que l'on voit là de Cosette, bon, c'est assez dans l'esprit Harcourt. Donc, pas de profondeur de champ, pas d'accessoires, photo de trois quarts, regard perdu au loin, dans le vague, donc comme une déesse prise au repos, lèvres carmin, donc ce côté très 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 glamour, chevelure souple, un peu crantée, donc à la manière des actrices hollywoodiennes. Et puis on reconnaît la signature. Alors maintenant, il n'y a plus Studio Harcourt, il y a juste Harcourt. Donc on reconnaît le H stylisé, prolongé, effilé comme la pointe d'une épée et qui en même temps est très griffe haute couture. Donc d'emblée, elle s'inscrit dans cet imaginaire de luxe à la française et en même temps de panache. Ça évoque aussi bien les Trois Mousquetaires que Dior ou Chanel. Voilà, elle est sur ce registre. De toute façon, elle considère que c'est de l'artisanat haut de gamme. Tout Harcourt résumé là dans cette photo.
« Rien ne permettait de penser que le studio serait un succès, parce que à l'époque, c'est la fin totalement des grands studios. L'ère des grands studios, c'est avec Nadar au 19e siècle. Alors, il y a quelques studios qui perdurent au début du 20e siècle, mais on est vraiment à la fin des studios, disons, de grands professionnels, les grosses machines où il y avait le photographe qui avait donné son nom au studio et puis une kyrielle de photographes qui photographiaient le tout venant. Cette période est totalement terminée. Parce que arrive sur le marché un autre type de portrait, dû à des photographes comme Man Ray, comme Dora, Madame Dora qui fait du portrait de la grande bourgeoisie, comme Boris Lipnitsky qui va faire du portrait de personnalité. Et donc, on est dans des toutes petites structures, des photographes qui sont artistes. Donc, monter un studio Harcourt, c'est quelque chose qui était pratiquement voué à l'échec.
Alors ici, vous êtes au fort de Saint-Cyr.
Mathieu Rivalin.
Le fort de Saint-Cyr, c'est un fort qui a été construit par Séré de Rivière après la guerre de 1870. Et après 1870, il y a une grande ceinture de forts qui est construite en région parisienne. Et c'est en 82 que le ministère de la Culture récupère ce fort pour y installer les archives photographiques et une partie des archives du Centre National du Cinéma. Là, on est vraiment, je pense, dans la première année du studio avec ces images-là.
Donc 1934.
1934, on n'a pas encore trouvé le style. Je pense que les photographes viennent aussi des studios parisiens. Ils travaillent comme ils sont habitués à travailler. Et Cosette n'a pas encore exactement réussi à mettre sa patte sur l'image du studio. Le fond est toujours noir, là, par exemple.
Alors qu'après, il y a ce halo derrière.
Voilà, qui doit apparaître vers 1935-1936.
Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi. Bah...
Françoise de Noël, d'où vient le style Harcourt? Comment elle a cette idée de ces éclairages de cinéma?
De beaux yeux, tu sais.
Cosette Harcourt.
Alors, c'est au studio Manuel Frère. Parce qu'il y a un autre photographe qui est là, c'est un photographe qui s'appelle Laurel et qui va mettre en place les éclairages des studios d'Hollywood chez les frères Manuel.
Donc c'est à la fois l'art du portrait à la française, mais qui remonte à Nadar, donc à la fin du 19e. Et puis, donc, nourri de cet expressionnisme allemand, de cette Hollywood des années 20, Cosette Harcourt, elle veut à la fois donc le glamour qui efface les imperfections et en même temps, elle veut ce style du noir et blanc où on a sculpté la lumière. Et là où on retrouve l'ADN d'Harcourt encore aujourd'hui, c'est dans les canons esthétiques d'un portrait Harcourt. Un portrait Harcourt, en fait, est reconnaissable. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver les mêmes éléments structurants, c'est-à-dire pas ou peu de profondeur de champ, pas de décor, une pose de trois quarts ou de profil, jamais de face. Une lumière donc sculptée, c'est-à-dire en fait un modelé de la peau où on va gommer les imperfections. Et on a l'impression que, en fait, on rejoint un peu la statuaire grecque, matinée de peinture renaissance italienne. Vous remarquerez qu'on a toujours un peu l'impression que ce sont des dieux perchés sur leur Olympe qui regardent au loin. C'est ça, Harcourt. Avec le fameux triangle de lumière là entre les deux yeux et l'arête du nez. Bon, ça c'est leur patte, c'est leur plus, et c'est ce qui fait qu'on reconnaît un portrait Harcourt. Là où d'autres femmes photographes de son époque, Germaine Krull, Hergé Landau, alors il y avait aussi la veuve Guillot qui recevait chez elle, pareil, qui faisait des portraits, mais les premières que j'ai nommées étaient des femmes reporters, mais c'était autre chose, elles voulaient saisir la vérité. Alors que le studio Harcourt a toujours été dans la beauté. Harcourt, c'est une promesse de toujours, de glamour toujours. D'ailleurs, un des mots de Raymond Voinquel, qui était leur photographe le plus illustre dans les années 40, disait « être toujours belle ». Et c'était ça. Vous veniez pour avoir une trace indélébile et éternelle de ce que vous êtes. C'est finalement un portrait Harcourt, c'est un miroir flatteur que l'on vous tend et qui va traverser les générations.
Zabou Bretman, est-ce que vous pouvez nous décrire votre photo Harcourt ?
Ah oui. Ah oui, voilà. Disons, je suis jeune là-dessus. Hein. Ouf, je suis pas vieille. Je suis pas, les années 80, non ? 85 ? Je dirais ça. Je pose, je me tiens comme une vedette des années 50, hein, c'est assez rigolo. Avec ma petite frange courte, j'ai des fossiles, visiblement j'ai des fossiles. Oui, le visage est bien partagé en deux. Il y a... Souvent, il séparait, il y avait un côté ombre, un côté lumière. Le visage est donc très, très, on appelle ça éclaté, c'est-à-dire que la partie lumineuse, il n'y a pas de détails. Et dans la partie ombrée, il y a cette fameuse, je dis fameuse parce que on retrouve ça beaucoup hein, dans les photos. Il y a une petite lumière sur la pommette en dessous de l'œil. C'est très fréquent. Il y a aussi un soin apporté à l'arrière-plan. Hein, il y a une partie blanche et une partie noire. Et il y a aussi un soin apporté à la lumière sur le cheveu aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très. Oui, c'est très travaillé, très délicat. Ouais, je regarde sur le côté. Oui, je pense que je prends une pose exactement de ce que j'imagine des photos des années 50. Une photo des années 50, c'est marrant comme tout. Elle est belle, cette photo, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est incroyablement belle.
Le regard, caméra, Alexandre. Yes. Ça, c'est très bien. Picard, vas-y vers la gauche avec le fond de gauche.
Chez les frères Manuel, eh bien les photographes, parce qu'il y avait les frères Manuel, mais il y en avait un ou deux autres, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient et il y avait des variantes. Et elle va dire, non, il n'y aura plus de variantes, il n'y aura plus de photographes, il n'y aura que ce que je dis. C'est cela qui fait la différence et c'est Cosette qui l'impose. Et comme elle est là pendant quand même très longtemps, puisque de 34, elle meurt à la fin des années 70, elle était la seule araignée, elle faisait ce qu'elle voulait.
C'était une main de fer dans un gant de velours. Donc, mais quelqu'un de très modeste, mais de très précis, de très exigeant, qui avait des codes bien spécifiques et qui voulait toujours que la photo soit Bravo. Exceptionnelle.
On y croit toujours, hein, Alexandre. Yes. Bravo. Impeccable.
La star, c'est le studio. Ce n'est pas le photographe, mais c'est un collectif qui, finalement, s'efface derrière la griffe. Ça aussi, c'est nouveau, c'est inhabituel. On n'avait jamais vu ça. Puisqu'en fait, tous travaillent pour l'esthétique Harcourt. C'est en même temps très commode parce que ça permet d'enchaîner les prises de vue, d'avoir des plannings tournants. Tel photographe n'est pas là, ce n'est pas grave, c'est un autre qui le remplacera. Mais vous aurez la même qualité Harcourt.
Parfait. On se redresse juste un tout petit peu au niveau du dos. Parfait. Et tu peux te brancher un tout petit peu plus avant. Parfait. Et tu vois, un tout petit peu de la main. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, pour le moment, on commence à... Regarde caméra. Voilà, très bien.
Alors, pourquoi est-ce que cela a si bien fonctionné et assez rapidement? Le studio est monté en 1934, donc à une période en plus économiquement très difficile, hein, parce que c'est le moment où la France prend vraiment en pleine figure, pour parler un peu familièrement, la crise de 29. Donc, c'est pas un moment propre à une réussite économique. Eh bien, c'est la façon dont Cosette Harcourt va mettre en place son studio. Alors, d'abord, elle comprend qu'il faut des têtes d'affiche. Alors, comment avoir des têtes d'affiche ? À l'époque, la presse se fournit beaucoup en portraits. Et donc, ce que fait Cosette, c'est qu'elle prend son téléphone et elle téléphone à Paul Valéry et elle lui dit « Monsieur, voilà, la presse a demandé un portrait de vous, alors est-ce qu'on peut venir faire le portrait ?» Et Valéry, flattée, vient tout de suite faire le portrait. Et elle procède comme ça, d'abord avec des intellectuels. Harcourt n'a pas commencé avec des artistes, il a commencé avec des intellectuels parce que c'était eux qui étaient plus porteurs.
Bah, le studio au départ voit modeste. On n'est pas encore au 49 avenue d'Iéna dans le somptueux enfin, j'appelle ça le palais, l'hôtel particulier. Alors c'est là où Harcourt, enfin où Cosette a une idée lumineuse. Elle comprend que il va falloir attirer les grands noms pour faire venir le grand public.
Voilà donc comment Cosette va faire la promotion des acteurs. Et une fois que les photographies sont réalisées, elle va en faire de grands tirages qu'elle propose au théâtre gratuitement pour qu'ils mettent en scène dans le hall, dans les foyers des théâtres, les portraits Harcourt. Et c'est comme cela qu'elle va commencer à faire sa publicité. Et de fil en aiguille, après ce sera les cinémas. Et moi, je me souviens très bien que j'étais une cinéphile très très jeune. Et quand j'avais 12 ans, je partais toute seule au cinéma et je montais l'escalier du cinéma de la petite ville de province où j'habitais et je regardais le portrait de Serge Reggiani à l'époque de Casque d'or où vraiment j'étais émerveillée par ces portraits qui étaient la jeunesse dans l'éternité. C'était absolument sublime.
Qui pense plus. Pense à moi.
Je pense toujours à toi, Marie.
Le studio Harcourt rapidement va acheter un central dernier cri, ça aussi c'est pas banal, qui lui permet d'appeler comme ça partout en France. Et donc il y a une armée de petites oreilles qui vont appeler, ça peut être les cercles paroissiaux, les études notariales, tous les cercles, a priori bourgeois ou petite bourgeoisie. Et sa deuxième idée forte, ça va être le portrait sans condition d'achat. À l'époque, dans les années 30, c'est révolutionnaire. Et donc l'idée, c'est venez vous faire tirer le portrait. A priori, il ne vous en coûtera rien, ce sera gratuit, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais évidemment, derrière, quand vous serez saisi par le rendu, eh bien, vous allez succomber et vous repartirez avec un jeu de photos. Ça peut être les 12 portraits d'identité ou bien les grandes photos. Donc c'est là-dessus qu'elle va fonder son succès. C'est là où Cosette Harcourt était redoutable. C'est qu'elle avait tout compris aux recettes marketing. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et puis aussi, après, faire ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire que elle a déjà à l'esprit rendre ce moment inoubliable. C'est pas un clic-clac et puis au revoir. Donc Cosette Harcourt met un point d'honneur à recevoir la clientèle dans le grand salon. On les fait patienter avec des consommations, un petit air de piano vous accompagne, parfois flûte de champagne, on discute, on met à l'aise. Finalement, Cosette Harcourt se comporte un peu comme une maîtresse de maison, finalement. Et en même temps, elle est discrète, qui plus est, donc elle a un passeport britannique, elle a un accent anglais, donc ça c'est assez délicieux, les Français adorent, donc on se perd en conjectures sur son passé, qui est-elle vraiment, donc là aussi ça participe aussi de l'aura du studio.
Ça devient un passage un peu obligé, et puis la star est invitée à se faire photographier chez Harcourt, c'est-à-dire que la star ne paye pas son portrait, donc elle se laisse photographier.
Le studio est au sommet de sa consécration en 39. 39 qui est une année exceptionnelle, même lors de la déclaration de la guerre, parce que justement les gens sont inquiets et font des portraits, ils vont se faire tirer le portrait. Et puis, juillet 40, les Allemands sont à Paris. Et là, le studio... Et dans l'embarras, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi est-ce que le studio est dans l'embarras? C'est que Cosette, qui s'appelle Germaine Hirschfeld, est une juive. Alors là, Jacques Lacroix va épouser Cosette Harcourt. À une époque où on pouvait hésiter à épouser une juive, lui l'épouse. Et donc, Cosette reste là, parce qu'elle s'appelle Madame Lacroix maintenant, mais les premières lois contre les Juifs, c'est dès 40. Hein. Donc, elle est obligée de se cacher assez vite, et puis finalement, elle part en Angleterre.
Cosette Harcourt, elle, est en Angleterre. Pareil, on perd sa trace. Son frère, d'ailleurs, s'est engagé dans la Royal Air Force. Mais elle, non, on sait qu'elle a donc le passeport britannique en 1936, qui va être renouvelé 3 ans plus tard. Mais on ne sait pas, elle attend. Et le studio va être confié à quelqu'un qui va gérer les affaires courantes pendant leur absence. Et c'est là donc les fameuses heures sombres d'Harcourt, puisque finalement l'occupant allemand va y trouver son compte. Et donc on va voir un défilé d'officiers en grand uniforme, souvent en partance pour le front de l'Est. Et donc on vient se faire photographier avec parfois la famille, et on laisse un souvenir comme cela. Voilà. Mais Harcourt vit aussi de cette manne allemande. Le bar de l'hôtel particulier fait un peu office de salon mondain, c'est-à-dire qu'il faut y voir et être vu. C'est un lieu de socialisation. Alors c'est vrai qu'il y a une faune un peu interlope qui va se côtoyer, donc aussi bien des espions, des résistants, des collabos, des demi-mondaines, des officiers. Bon bref, voilà, c'est tout ce milieu-là qui se côtoie. On échange des infos, on en traque d'autres, voilà. Et Harcourt est un peu la plaque tournante de tout ça.
C'est une période qui est quand même compliquée et que c'est des fois difficile de démêler les intentions, ce que chacun a été obligé de faire. Alors pour certains, c'est très évident. Pour beaucoup, dont le studio Harcourt, à la fois ils ont probablement bénéficié d'appui dans l'administration française, mais peut-être parce qu'ils étaient Harcourt et que donc voilà, ou même. Auprès des Allemands, mais ça les a probablement pas empêchés, peut-être de l'autre côté, de se servir de ces appuis et de cette existence pour faciliter d'autres choses. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de source écrite. Il y a, je crois, plus de témoins. Donc c'est très compliqué de réécrire cette histoire-là. Elle est très compliquée à écrire. De dire qu'ils ont photographié des soldats allemands ne les rend pas forcément collaborateurs actifs dans la guerre. D'autres ont continué à travailler pendant la guerre.
Ça, c'est des portraits de cette époque ?
Tout ça, c'est des portraits. En fait, les portraits, ils ont été rangés dans l'ordre dans lequel ils sont faits au studio. Et donc, ça donne un peu une idée de ce que peut être la représentation dans la clientèle du studio.
Donc il y a des enfants aussi.
Il y a aussi des enfants qui sont photographiés. Là, on est à peu près, oui, il y a une quinzaine de commandes entre le premier portrait de militaire allemand et ce portrait-ci. Donc je pense que c'est une. On a aussi une clientèle de soldats allemands occupant Paris qui envoient, je pense, des photos aussi à leur famille. Et ce sont plutôt des officiers, parce que quand on avait travaillé sur le fond, alors ça va avec le prix du portrait, et donc c'était plutôt des officiers qui se sont fait photographier.
Ce qui les intéressait, c'était de faire du business, et ils ont fait du business pendant la guerre.
C'était le Studio Harcourt, tout en clair-obscur, premier épisode, naissance d'un style. Merci à Françoise Denoyel, historienne, Catherine Renard, directrice générale du studio Harcourt, Zabou Breitman, comédienne et réalisatrice, Guillaume Évin, écrivain, et Mathieu Rivalin, chargé de collection à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. La suite à écouter au prochain épisode.